Bonjour chers auditeurs, voici l'émission Visage de la Bible. Catherine Mann au micro pour vous proposer de feuilleter la Bible comme un album de famille, celui d'une grande famille spirituelle, où nous allons nous attarder sur quelques visages d'hommes et de femmes, en choisissant plutôt de mettre en lumière ceux qui ne sont pas très connus, mais qui méritent pourtant de l'être, ou en tout cas, qui méritent que l'on s'y intéresse, car dans la Bible, tout a son importance. Aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter sur le visage d'un des rois de Juda, le roi Josias, qui va nous permettre d'évoquer tous les problèmes que le peuple hébreu a rencontrés à cause du choix qui avait été fait du temps du prophète Samuel de se doter d'une royauté pour être dirigé, selon ce que nous dit la Bible, dirigé comme tous les autres peuples. Alors, ça avait fait problème. Mais bon, le Dieu accorde la royauté. Le premier roi fut Saül, donc de la tribu de Benjamin, choisi par Dieu, mais qui va rapidement le rejeter à cause de cette désobéissance. Il fut remplacé donc par David, le roi David, qui lui fut vraiment le modèle parfait du roi dévoué et fidèle, très aimé de Dieu et de son peuple, courageux militaire dans le dur combat contre les peuples environnants, parce que sans cesse il leur faisait la guerre, et surtout homme de prière, à qui nous devons les psaumes qui nous inspirent toujours aujourd'hui. David laisse à son fils Salomon ensuite la charge d'un pays unifié, les 12 tribus, en paix avec les voisins, un pays prospère et fidèle à Dieu au point qu'il va pouvoir entreprendre la construction du temple à Jérusalem. Mais déjà, Salomon fit assez d'erreurs dans sa gouvernance pour laisser à sa mort de nombreux conflits et des révoltes qui vont aboutir à un schisme entre 10 tribus qui se formeront au nord un royaume d'Israël et 2 tribus qui vont devenir au sud le royaume de Juda, donc autour de Jérusalem et du Temple. Ce schisme politique va provoquer en même temps un schisme religieux puisque les tribus du Nord vont établir à Samarie leur propre sanctuaire concurrent où le culte va se différencier en s'ouvrant, entre autres, à des influences de dieux étrangers. La rupture va être totale entre le royaume du Sud et le royaume du Nord, ceux qu'on appellera les Samaritains. Il n'y a qu'à se souvenir de l'animosité qui persistera envers eux jusqu'au temps de Jésus, comme nous le racontent les évangiles. Et les rois d'Israël, donc du Nord, seront toujours ce qu'on peut appeler des mauvais rois, donc d'un point de vue religieux. Le texte biblique les présente chacun avec cette même notice. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, il marcha dans le chemin de son père, il imita le péché qu'il avait fait connaître à Israël. Voilà, donc le maximum de mal étant bien sûr le culte rendu à des idoles, avec des rites souvent barbares de sacrifices humains ou d'autres perversions. Pendant ce temps-là, le Sud, bien que limité à un plus petit territoire, bénéficie de l'importance de Jérusalem et du Temple qui reste fidèle à Dieu. Enfin, en partie, parce que malgré tout, les rois de Juda sont très inégaux. Beaucoup seront aussi infidèles à l'alliance avec le Seigneur Dieu et contaminés par l'idolâtrie. Prenons par exemple déjà le fils de Salomon, Roboam, qui fut le premier à trahir sa lignée. Je vous lis au premier livre des Rois, chapitre 14, à partir du verset 22. « Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et par les péchés qu'il commit, provoqua sa colère. Il bâtit des stèles et des poteaux sur des hauts lieux, sous tout arbre vert, et il eut même des prostituées sacrées dans le pays. » Ils agirent selon toutes les abominations des nations que le Seigneur avait dépossédées devant eux. Voilà donc la présentation du premier roi de Juda. C'est pas brillant. Et son fils Abiyam ensuite fut du même genre. Le texte biblique dit, chapitre 15, verset 3, « Il imita tous les péchés de son père que son père avait commis avant lui. Son cœur ne fut pas intègre à l'égard du Seigneur son Dieu. » Contrairement à ce qu'avait été le cœur de David. Donc, le roi David restera toujours la référence pour la comparaison. Et pourtant, voilà que le petit-fils, donc qui s'appelle Asa, lui va reprendre le chemin de la fidélité à Dieu. Donc il y a alternance, chapitre 15, verset 11. Asa fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur, comme David. Voilà, et ce roi Asa eut un long règne de 41 ans pendant lequel il essaya d'éliminer de son territoire l'idolâtrie et la prostitution. Mais le texte nous dit, mais les hauts lieux ne disparurent pas. Il était donc en fait extrêmement difficile d'éradiquer l'influence d'autres dieux parce qu'ils étaient présents sur cette terre bien avant l'arrivée des Hébreux. Et c'est ainsi que malgré la présence sanctifiante du temple à Jérusalem, les rois de Juda vont se succéder avec une malheureuse alternance entre rois fidèles et rois infidèles à Dieu. À tel point que vers les années 650 avant Jésus-Christ, la religion s'était fortement affaiblie, voire franchement dégradée ou oubliée, en tout cas noyée dans le syncrétisme. Il faut dire que le règne de Manassé était passé par là. Donc là, un long règne de plus de 50 ans, pendant lesquels le culte des dieux étrangers va atteindre un maximum. Lisons, là c'est dans le deuxième livre des Rois, chapitre 21, à partir du verset 3, voilà ce qu'on dit de Manassé. « Il rebâtit les hauts lieux qui avaient été détruits. Il érigea des autels au Baal, il dressa un poteau sacré, il se prosterna devant toute l'armée des cieux qu'il servit, il bâtit des autels dans la maison du Seigneur, il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison du Seigneur, il fit passer son propre fils par le feu, il pratiqua incantation et magie, il établit des nécromanciens et des devins, il offensa le Seigneur, et l'idole d'Achéra qu'il avait faite, il l'installa dans la maison du Seigneur. » Voilà donc l'état religieux que laisse Manassé à sa mort en 643 avant Jésus-Christ. Et son fils Amon qui lui succéda ajouta encore 2 années de cette même idolâtrie au sein même du temple de Jérusalem. Alors à ce moment-là, il y aura une révolte dans le palais qui va mettre fin à la vie de ce roi Amon qui sera assassiné. Et là, la fin du chapitre 21 nous dit « Mais la population du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et l'établit roi à sa place, son fils Josias. » Et c'est donc là maintenant à la vie de ce roi Josias que nous allons nous intéresser. Reprenons la lecture du deuxième livre des rois à partir du chapitre 22 pour y découvrir l'histoire du roi Josias. Donc après l'assassinat de son père, il est placé sur le trône par un mouvement populaire, mais il n'a que 8 ans. Et le texte ne nous dit rien de la façon dont est régenté le pays pendant son enfance, ni dit rien non plus de ses premiers pas comme roi. Tout ce que nous lisons est cette présentation traditionnelle que je vous lis. Il régna 31 ans à Jérusalem, il fit ce qui est droit aux yeux du Seigneur et suivit exactement le chemin de David. Donc cette entrée en matière nous assure que Josias fait partie des bons rois, de ceux qui font honneur à la dynastie de David. Ce n'est que 18 ans plus tard qu'on voit Josias entrer en scène concrètement. On le voit se soucier du délabrement du temple. Délabrement tout extérieur. Il décide d'entreprendre des travaux de rénovation. Il fait rassembler l'argent des dons faits au temple pour les consacrer aux réparations. On fait appel, nous dit le deuxième livre des Rois, chapitre 22, à ceux qui travaillent à réparer les dégradations, donc des charpentiers, des constructeurs, des maçons, à ceux qui sont chargés d'acheter des poutres et des pierres de taille en vue de réparer la maison de Dieu. Il s'agit donc de grands travaux, très concrets manifestement. Le temple devait se trouver en fort mauvais état, un peu à l'abandon. Et à l'occasion de ces bouleversements, le grand prêtre, Hilkiyahu, va découvrir un livre, sans doute un rouleau oublié depuis longtemps dans un coin. Il le prend et se rend compte qu'il s'agit d'un livre de la loi de Moïse, ou au moins un rouleau du Deutéronome, peut-être une Torah complète, donc un Pentateuque entier. En tout cas, le grand prêtre va remettre ce livre à Shaphan, le secrétaire du roi, qui le lit. Alors, est-ce que le prêtre l'a lu? J'en sais rien, mais en tout cas, on charge le secrétaire de le lire. Et lui-même, quand il l'a lu, va aller trouver Josias pour lui en faire la lecture. Alors, c'est là que les choses se bouleversent. Nous sommes au deuxième livre des Rois, chapitre 22, qui nous dit « Lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. » Alors, ce geste traditionnel signifie que Josias ressent une émotion intense de chagrin ou de désespoir. C'est un geste de deuil, d'ailleurs. Alors, parce qu'il prend brutalement conscience de la distance qui les sépare de l'alliance originelle avec leur Dieu, de la trahison qui s'est installée progressivement au cœur de la royauté et de la perte terrible que ça signifie pour le peuple hébreu. Il se passe en lui un radical mouvement de conversion qui le bouleverse et qui le pousse à agir immédiatement pour réparer cet incroyable oubli de leur vocation. Il ne s'agit plus de réparer seulement les pierres et les poutres. Il demande qu'on aille d'urgence interroger Dieu. Alors, interroger Dieu, c'est une consultation en général d'un intermédiaire. Lisons au deuxième livre des Rois, chapitre 22, à partir du verset 13. Josias dit « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qui a été trouvé. Car elle est grande la fureur du Seigneur qui s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre et n'ont pas agi selon tout ce qui y est écrit. » Voilà, donc, alors pour aller consulter Dieu, il fallait normalement s'adresser à un prophète. Mais ici, sans doute parce que la situation est assez exceptionnelle, c'est à une prophétesse que les prêtres vont aller s'adresser. Il s'agit de la prophétesse Hulda. Ce mot signifie taupe, comme si elle était elle-même quelqu'un d'assez secret. Hulda, qui habitait avec son mari, qui travaillait au temple, donc ils habitaient près du temple à Jérusalem. On va trouver Hulda, et voici le résultat de la prophétesse qu'elle leur transmet. Je vous lis. « Ainsi parle le Seigneur, je vais amener un malheur sur ce lieu et sur ses habitants, puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont brûlé de l'encens à d'autres dieux, au point de m'offenser par toutes les œuvres de leurs mains. » Ma fureur s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra pas. Mais au roi de Juda, qui vous a envoyé consulter le Seigneur, vous direz, ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël, tu as bien entendu ces paroles, puisque ton cœur s'est laissé toucher et que tu t'es humilié devant le Seigneur. Et puisque tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, je vais te réunir à tes pères, tu seras réuni en paix avec eux dans la tombe, et tu ne verras rien du malheur que je vais amener en ce lieu. » Étonnante récompense pour la conversion de Josias, tu vas mourir en paix. Mais peut-être que ça suffit comme récompense, Dieu lui promet simplement une mort prochaine qui lui évitera d'affronter le malheur qui approche. Et c'est donc ainsi que se termine le chapitre 22 du deuxième livre des rois. Mais Josias ne va pas s'effondrer et laisser les choses comme elles sont. Il va au contraire réagir à cette prophétie en essayant de redresser la situation. Il va convoquer tout le peuple et tous les responsables en Juda, donc autour de Jérusalem. Il va les obliger à venir au temple de Jérusalem pour y écouter, obligatoire, la lecture complète du livre de l'Alliance qui a été retrouvé. Après que tout le monde a écouté, Josias va monter sur l'estrade et s'adresser à Dieu pour y prendre l'engagement au nom de tous de suivre le Seigneur, d'accepter l'obligation de garder les commandements, tous les décrets et les directives du livre et d'accomplir toutes les paroles de l'Alliance qu'on a trouvées dans ce livre. Et il ajoute « accomplir de tout son cœur, de tout son être », selon la formule du Deutéronome, ce qui fait penser que c'est au moins le livre du Deutéronome qu'on a trouvé. Le chapitre 23 commence par une cérémonie officielle, avec cette phrase « et tout le peuple s'engagea dans l'Alliance ». Il s'agit donc là d'une promesse solennelle un peu contraint forcée, mais tout le peuple promet de revenir aux sources pures de l'Alliance par un redressement spirituel et moral sans faille. Mais, bien sûr, il ne suffit pas de promettre, il faut que les actes suivent les paroles. Alors commence véritablement ce que l'histoire va retenir sous le titre de « Réforme deutéronomique de Josias ». À partir de là, il commence par exiger le grand ménage à l'intérieur du temple. Il ordonne aux prêtres d'extirper tous les objets de culte qui s'y trouvaient en relation avec le dieu Baal ou Asherah ou toute l'armée du ciel, donc l'astrologie. Tout cela fut sorti et brûlé et les cendres évacuées loin. On expulsa ensuite tout le petit clergé. Alors expulsa ou tua, l'histoire ne le dit pas, élimina en tout cas tout le petit clergé formé pour chargé de ce culte des idoles, que ce soit ceux du temple et ou ceux qui officiaient dans tous les hauts lieux sur tout le territoire de Juda. On retira aussi du temple un poteau sacré, le genre de c'est une représentation, pense-t-on, de la déesse de la fertilité, pour qu'il soit brûlé loin de Jérusalem et ses cendres enterrées. Après quoi, c'est à la prostitution qu'on va s'attaquer. Il y avait des petites maisons, en fait, dans l'enceinte du temple, où les femmes se tenaient et tissaient des vêtements pour les divinités. Et Josias fit donc détruire toutes ces maisons de prostitution. Ensuite, il entreprit de souiller, dit le texte, c'est-à-dire de rendre inutilisables tous les lieux qui avaient été consacrés au culte des idoles, partout sur le territoire. Partout, ils furent détruits et saccagés pour ne plus être utilisés. Et parmi tous ces hauts lieux se trouvaient aussi les lieux consacrés au culte de Moloch. Vous connaissez, c'est là où se pratiquaient les sacrifices humains, le plus souvent des sacrifices d'enfants. Eux aussi donc disparurent, ainsi que toutes les pratiques magiques et la nécromancie. La vraie réparation du temple avait commencé.
Alléluia! Allelu verbe corso, allelu ubere quia uso, allelu ubi guruta, allelu uke novgurallu, allelu ube te gosho falan, allelu ube nevol verfendor, allelu ube tofu maholan, allelu ube minim veudor, allelu ube zilsele shama, allelu ube zilsele deru,
le roi Josias, auquel nous nous intéressons aujourd'hui, vient donc d'entamer un grand nettoyage religieux dans tout le territoire de Juda, en éliminant toutes les traces d'idolâtrie. Or, beaucoup de ces lieux de culte avaient été mis en place par les rois de Juda, et le texte va jusqu'à attribuer certains d'entre eux à Salomon lui-même. Je vous lis au chapitre 23, verset 12. « Le roi démolit des autels que des rois de Juda avaient élevés, ainsi que des autels que Manassé avait bâtis dans les deux parvis de la maison du Seigneur. Il les enleva de là, les jeta les cendres dans le torrent du Cédron. Il rendit inutilisables les hauts lieux qui se trouvaient en face de Jérusalem, ceux que le roi Salomon avait construits en l'honneur d'Astarté. Donc c'est vraiment, on se rend compte que l'idolâtrie avait pris de la place dès le règne du roi Salomon. Il faut se rappeler quand même qu'il avait épousé 300 femmes de toutes les petites nations alentour, et que en bon époux, il sacrifiait au dieu de ses femmes. C'était une manière pour lui de faire la paix avec les gens autour, mais au sacrifice de sa propre religion. Donc c'est bien, en fait, dès le début, c'est tout le système monarchique qui n'est pas à la hauteur des attentes de Dieu pour son peuple. Mais Josias, lui, prend les choses en main et il va pousser la purification et la réforme à son maximum, essayant d'éradiquer toute forme religieuse non conforme à la loi. Et il va élargir son épuration en débordant, même jusque dans les territoires du Nord. Il va avancer jusqu'en Samarie pour détruire des autels, et là, on est sûr, pour tuer des prêtres. Et c'est seulement quand il commence à être satisfait de son grand nettoyage qu'il décide de faire célébrer la Pâque du Seigneur. Mais cette célébration sera maintenant centralisée en une immense cérémonie au temple à Jérusalem, et non plus laissée à des initiatives éparpillées partout dans les familles ou les petites communautés. Il prend cette décision qui est une véritable reprise en main religieuse centrée sur Jérusalem. Lisons au chapitre 23, verset 21. « Le roi donna cet ordre à tout le peuple, célébrez la Pâque du Seigneur, votre Dieu, selon ce qui est écrit dans le livre de l'Alliance, car on n'avait pas célébré une telle Pâque depuis le temps où les juges avaient gouverné Israël. » Donc on se rend bien compte que dès que la royauté a démarré, l'oubli des rites, comme la Pâque, était déjà là. Il y a dans ces paroles de Josias une forme de constat d'échec de la royauté qui n'a pas su préserver ce qui aurait dû être essentiel, à savoir la relation à Dieu. Alors, Josias va-t-il redresser la royauté grâce à tous ses efforts? Lisons au chapitre 23, donc deuxième livre des rois, à partir du verset 25. Il n'y a pas eu avant lui un roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il ne s'en lèvera pas de semblable. Toutefois, le Seigneur ne revint pas de l'ardeur de sa grande colère qu'il avait enflammée contre Juda à cause de toutes les offenses que Manassé avait commises contre lui. Le Seigneur dit, « Même Juda, je l'écarterai loin de ma présence, comme j'ai écarté Israël. Je rejetterai cette ville que j'ai choisie, Jérusalem, et la maison dont j'avais dit, là sera mon nom. » Voilà, des paroles très dures, mais quand on connaît la fin de l'histoire, des paroles très réalistes, puisque c'est comme ça, effectivement, que tout se termine dans la période des rois. Ce sera d'abord la chute du Nord, les 10 tribus, la chute d'Israël et leur déportation, et ensuite le même sort pour Juda, les tribus du Sud, la prise de Jérusalem, et leur déportation aussi, parce que les rois de Juda qui succéderont à Josias seront de plus en plus mauvais, jusqu'à conduire à la disparition totale de la monarchie et donc l'exil à Babylone. Voilà, alors en attendant, que se passe-t-il avec Josias? A-t-il conscience de la fragilité à long terme de toute sa réforme? Puisque Dieu lui avait promis, par l'intermédiaire de la prophétesse Hulda, qu'il pourrait avoir une mort paisible avant toutes les catastrophes annoncées, et qu'il ne verrait pas l'effondrement final, n'aurait-il pas pu simplement profiter d'une vieillesse heureuse en savourant l'accomplissement de la restauration religieuse? Eh bien non, c'est pas du tout ce qui va se passer. Josias apprend que l'Égypte est en train de réaliser une coalition avec la Syrie au nord pour former un bloc militaire plus fort afin de combattre les invasions des Babyloniens qui sont en train de venir de l'Est. Les armées égyptiennes vont donc remonter le long de la côte méditerranéenne pour rejoindre au nord les Assyriens et donc traverser partiellement les territoires d'Israël. Mais alors, au lieu de les laisser passer sans rien dire, hein, d'ignorer cette coalition qui, à mon avis, aurait pu être utile finalement contre Babylone, au contraire, avec sa toute petite armée, parce que c'est quand même un tout petit pays, Josias va aller à la rencontre de Pharaon avec l'idée de lui barrer le passage. Je ne sais pas ce que Josias espérait de cette manœuvre militaire. Pour ma part, je trouve totalement absurde et insensé. Toujours est-il qu'à peine le Pharaon aperçoit-il Josias, qu'il le tue. Et voilà, là s'arrête la guerre d'intervention contre l'Égypte. Les soldats chargent son corps sur un char et tout le monde revient à Jérusalem, où Josias va être enterré en paix auprès de ses pères. Il me semble qu'il y a une mort tellement inutile que je me dis que Josias allait peut-être en fond volontairement vers sa mort pour ne pas voir que toute son œuvre de réforme n'allait en fait déboucher sur rien du tout parce qu'elle était arrivée trop tard dans l'histoire de la royauté. Il aura eu simplement pour lui la satisfaction d'être reconnu par Dieu comme le seul roi qui s'est montré digne de succéder à David, si on ne tient pas compte, bien sûr, du terrible échec de sa mort. En tout cas, son fils Joachaz, qui va lui succéder, et le texte nous dit, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Donc, tout de suite, tout s'effondre. Et au bout de 3 mois, d'ailleurs, il fut fait prisonnier par le Pharaon, qui a profité de la situation pour s'approprier tout le territoire, bien entendu. Et ainsi s'enclenchent tous les mécanismes politiques et militaires qui vont conduire finalement à la conquête babylonienne et à la disparition d'Israël et de Juda. Ce qui restera de Josias, c'est finalement un recentrage vigoureux sur le Dieu unique et la fin des multiples petites religions locales, au point qu'on a pu dire que Josias devrait être considéré comme le vrai fondateur du monothéisme. On peut dire en partie que c'est vrai, en tout cas, il a largement contribué à sa consolidation à travers les âges. Et maintenant, il est temps de nous quitter. Je vous dis au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
TV.